Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Bonjour à toutes, Torah Box Radio depuis Jérusalem. Bienvenue à notre émission Judaïsme au féminin, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je suis très contente de vous retrouver. Donc comme vous le savez, chaque semaine dans notre émission, j'essaye, donc je vous rappelle que je suis rabbanite Léa Benaïm. Vous me connaissez peut-être de Torah Box Femmes, où j'ai quelques cours là-bas sur le sujet, un de mes sujets préférés, le sujet de la Hitbo des doutes. Je vous recommande d'écouter à l'occasion. Et donc chaque semaine, j'essaye avec vous d'aborder un sujet du judaïsme d'un regard féminin avec, en fait, comment est-ce que nous, les femmes, nous pouvons vivre les fêtes, les parachutes de la semaine ou parfois des personnages, en tout cas toutes sortes de sujets. Et pour nous, les femmes, comment les vivre, comment mieux les vivre, comment nous épanouir grâce à notre Torah. Cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons donc aborder le thème de la semaine, qui est donc Rosh Hashanah, parce que cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons vivre un très grand moment qui s'appelle Rosh Hashanah. On va expliquer exactement par la suite c'est quoi Rosh Hashanah, comment est-ce qu'on le vit, qu'est-ce qu'Hashem il attend de nous ce jour-là, etc. Beaucoup de choses très très importantes, essentielles et structurantes pour toute notre année. Je voulais vous rappeler que si vous avez quelque chose à nous dire, vous pouvez nous laisser nous écrire un mail à l'adresse suivante, radio@torah-box.com et on tâchera de répondre rapidement si Dieu veut. Je vous laisse pour quelques minutes de publicité et on reprend tout de suite après. Ne partez pas.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sotte de la vraie Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ichement, mitzvot de garder les mitzvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box délivrent sur mesure pour vous. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, kashrout, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.
Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Rebonjour à toutes et bienvenue donc à notre émission Judaïsme au féminin. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Et voilà, comme je vous le disais juste avant l'espace publicitaire, aujourd'hui le sujet que j'aimerais développer avec vous, c'est le sujet de la semaine, Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? Comment est-ce qu'on est censé vivre Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Beaucoup de questions et que je vais essayer, si Dieu veut, d'aborder, d'analyser, avec surtout notre petite note féminine. Qu'est-ce que nous les femmes, comment est-ce qu'on peut vivre cette journée en sachant que nous n'avons pas forcément la possibilité de nous rendre à la synagogue, donc nous n'avons pas forcément ces moments vibrants de la tefila comme les hommes, mais nous avons quand même et bien sûr un grand grand rôle et un grand travail à faire ce jour-là. Je voulais d'abord vous poser une question. D'après vous, Rosh Hashanah, est-ce un jour de joie ou un jour strict ou sévère? C'est une question qui est importante à se poser, qui est aussi importante à comprendre. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question également? Et naturellement, les réponses qu'on me donne, que les élèves dans les séminaires dans lesquels j'enseigne me donnent en général, c'est les deux. Rosh Hashanah, c'est également un jour de joie et également un jour strict, sévère, un jour de jugement. Alors, en vérité, ces deux sentiments ne sont pas uniquement des sentiments que nous ressentons de manière naturelle à l'approche de Rosh Hashanah. Cette ambiguïté, elle apparaît également chez nos sages qui abordent cette question en se posant comment est-ce qu'un juif doit aborder Rosh Hashanah. D'un côté, on voit, par exemple, que Rosh Hashanah, donc bien sûr, c'est un jour de jugement, c'est un jour où on doit être sérieux, c'est un jour où on doit prendre en compte et réaliser que toute notre année va dépendre de ce jour, c'est un jour où donc on doit prier du fond du cœur, où on doit être conscient de ce qui se joue, etc. D'ailleurs, le Harizal disait que celui qui ne pleure pas à Rosh Hashanah ou à Yom Kippour, c'est qu'il y a peut-être un petit problème avec sa Neshama. On n'est pas forcément à ce niveau-là. On a une génération beaucoup plus basse, puisqu'on est une génération avant Mashiach où on a beaucoup de difficultés. On peut pleurer très facilement, comme on peut avoir beaucoup de mal à pleurer. Donc, c'est pas le yinyan du pleur en particulier que je veux mettre en avant. Mais c'est pour dire que oui, donc, le Harizal parle de cette facette de cette journée de Rosh Hashanah dans laquelle on nous demande donc d'être sérieux. Par exemple, également, on voit qu'à Rosh Hashanah, nous ne lisons pas le Hallel. Vous savez qu'en toutes les fêtes, Hanouka, Pessah, Sukkot, on lit le Hallel. Le Hallel, c'est une expression de joie, une expression de remerciement envers Hachem. À Rosh Hashanah, nous ne lisons pas le Hallel. Hachem dit, comment est-ce que mes enfants sont jugés ce jour-là et ils vont chanter devant moi? Ça ne marche pas avec Rosh Hashanah. Autre chose que nous voyons à Rosh Hashanah, c'est que pour Sukkot, par exemple, nous avons une mitzvah qui est de Vesamarta Bechagecha, de nous réjouir pendant Sukkot. C'est une des mitzvot de la fête. À Rosh Hashanah, nous n'avons pas cette mitzvah de nous réjouir officiellement, on va dire. Donc, a priori, on a l'impression que Rosh Hashanah, c'est vraiment, vraiment un jour strict, un jour sévère, un jour où il faut prendre les choses au sérieux. Mais on va voir également qu'à Rosh Hashanah, on nous raconte dans le livre de Ezra et de Néhémia, on voit que après donc, la destruction du premier Beth Amikdash, les Bnei Israël, les Juifs, ont été exilés en Babel pendant 70 ans. Après 70 ans, ils sont revenus en Israël, donc c'est le retour des exilés de Babylone, de Babel, en Eretz Israël, pour reconstruire donc, le deuxième Beth Amikdash. Ils sont revenus avec Ezra et Néhémia, qui étaient donc à leur tête. Et lorsque les Juifs sont arrivés en Israël, et qu'ils ont vu la désolation du pays, et qu'ils ont vu à quel point, parce qu'il y avait encore parmi ces hommes des gens qui se souvenaient du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, il n'y avait que 70 ans qui étaient passés, il y avait des gens qui se souvenaient de la belle Jérusalem, de toute la Gdusha, de toute la beauté de la plus belle ville du monde, et lorsqu'ils ont vu donc cette désolation, ils se sont mis à pleurer. Et à ce moment-là, Ezra et Néhémia sont venus les voir et leur ont dit « Ne pleurez pas !» Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Arrêtez-vous de pleurer, mangez des choses douces et réjouissez-vous. Donc, on voit ici une référence dans le Tanakh où on voit que Rosh Hashanah est un jour de joie. On sait également que Rosh Hashanah est appelé Yom Chagenu, un jour de fête. Donc, on s'aperçoit que Bémet, il y a une certaine ambiguïté. D'un côté, on doit être sérieux. D'un autre côté, on voit Ezra et Néhémia qui demandent de se réjouir ce jour-là et de bien manger. D'ailleurs, on sait que ce jour-là également, on s'efforce de faire des bons mets, des mets qui soient doux et sucrés, la pomme dans le miel, tous les simanim du soir des deux darim, donc des deux soirées de Rosh Hashanah, la grenade, etc. Tout ce seder qui, en vérité, nous met dans un état d'esprit, oui, de fête, Et donc, c'est un petit peu ambigu. Nous-mêmes, on se pose la question à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on va vivre cette fête? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce que c'est évident que Hachem, il attend quelque chose de nous, de clair. C'est pas ambigu. Et on va découvrir qu'en vérité, ce jour de Rosh Hashanah, on a un travail à accomplir, on a un travail à faire, qui en réalité va nous amener à ressentir de la joie. Si pour les autres fêtes comme Pessah et Sukkot, nous avons l'obligation de nous réjouir, à Rosh Hashanah, nous n'avons pas l'obligation de nous réjouir, mais nous avons un travail qui va nous amener à ressentir de la joie. Et ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui, de comprendre ensemble, c'est quoi ce travail? Qu'est-ce qu'on fait pendant Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. A priori, Dieu nous juge. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous allez me dire, on fait tchouva, etc. Vous allez voir, c'est pas si évident que ça qu'on fait tchouva à Rosh Hashanah. On va le voir tout de suite. Donc, première question, est-ce que Rosh Hashanah, c'est un jour de joie ou est-ce que Rosh Hashanah, c'est un jour sévère? On a compris que c'est un peu des deux. Et pourquoi un peu des deux? Parce que grâce au fait de réaliser ce qui se passe à Rosh Hashanah, ce qu'Hachem il attend de nous à Rosh Hashanah, on va arriver à ressentir une véritable joie, une joie profonde, une joie qui est en vérité le résultat d'un travail qu'on va faire sur notre personne. Une autre question qu'on se pose autour de Rosh Hashanah, c'est, vous savez que les 10 premiers jours du mois de Tishri sont appelés Aseret Yemei Tshuva. Des 6 jours, donc, les 10 jours, pardon, de Tshuva. Du premier Tishri jusqu'au 10 Tishri. Le premier Tishri est le jour de premier jour de Rosh Hashanah. Et le 10 du mois de Tishri, c'est le jour de Yom Kippour. Et donc, ces 10 jours sont appelés les 10 jours de pénitence, les 10 jours de Tshuva. Rosh Hashanah, c'est le Aleph et le Bet de ce mois de Tishrei, et on s'aperçoit que dans la tefila de Rosh Hashanah, parce que vous savez que la tefila du jour, c'est l'essence de la journée. On sait que la tefila s'appelle Avoda Shebalev, le travail du cœur. Et si on veut comprendre qu'est-ce qu'Hachem nous demande, il faut qu'on regarde dans la tefila. Et on s'aperçoit que dans la tefila de Rosh Hashanah, étonnamment, il n'y a à aucun moment, quasiment, de rappel de tshuva. Il n'y a pas un moment où on demande à Hachem de nous pardonner. On ne passe pas en revue, comme à Yom Kippour, toutes les fautes que nous avons faites. Vous savez, si vous vous souvenez bien, dans les Marzorim de Yom Kippour, on doit détailler au maximum les fautes que nous avons faites pendant l'année, sur la faute comme ça, al-khetche. On essaye vraiment d'englober un maximum de fautes, même des fautes qu'on a l'impression parfois qu'on n'a même pas fait. Mais les Chachamim, ils nous disent que si on doit prononcer et réciter toutes ces fautes, c'est que quelque part, on les a peut-être fait, peut-être même dans un autre Gilgul, dans un précédent Gilgul, allons savoir. Et à Rosh Hashanah, pourtant, on appelle les deux premiers jours de Rosh Hashanah, les deux premiers jours de Aseret Yemei Tshuva, mais on ne voit pas du tout le inyan de la Tshuva, on ne voit pas du tout à un moment donné dans la journée qu'on nous demande de faire Tshuva. Et même, je vais aller plus loin que ça. Vous savez qu'il y a un minag, il y a une coutume de ne pas manger de noix à Rosh Hashanah. Et pourquoi ça? Voilà, si vous ne le saviez pas, il faut savoir, on ne fait pas de noix à Rosh Hashanah, pas de gâteau aux noix, rien aux noix. Et pourquoi ça? Parce que le mot noix en hébreu se dit égoz. Et que égoz a la valeur numérique du mot chet, du mot faute. Et qu'à Rosh Hashanah, nous ne voulons pas mentionner du tout les fautes que nous avons pu faire. Ce n'est pas le moment. Mais alors là, la question, elle est encore plus dure, on va dire, parce qu'on parle des deux premiers jours de tshuva et on ne doit même pas manger quelque chose qui, de loin, va nous rappeler la faute. Mais pourtant, on va être jugé et on veut, oui, qu'Hachem nous pardonne nos fautes. Donc, pourquoi est-ce que ces deux journées-là, on occulte tellement le inyan de la tshuva et des fautes? C'est une question qui est également essentielle. Et grâce à l'analyse de cette question, on va comprendre quel est le travail de Rosh Hashanah et surtout également comment est-ce que le travail de Rosh Hashanah va nous amener à la joie, comme je vous l'ai dit donc précédemment. Alors, sur ces deux premières questions, je vous demande un petit peu de réfléchir d'après vous. Parce qu'elles sont liées, bien sûr, ces questions. Le fait que nous ne mentionnons pas la tshuva à Rosh Hashanah et le fait que Rosh Hashanah soit un jour un petit peu ambigu au niveau de nos sentiments et également au niveau de ce que les sages disent de Rosh Hashanah, c'est qu'il y a forcément ici quelque chose de particulier, un travail bien, bien particulier qu'à aucun moment dans l'année nous ne pourrons accomplir, à savoir que ce sont des jours où l'importance de la préparation est particulièrement grande. C'est pas pour rien que on a tout le mois d'Eloul avant pour se préparer à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, bien sûr, parce que ça demande une prise de conscience et de réaliser où on va, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce que la nouvelle année nous réserve, et surtout, comment est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter les mérites des Sruyot pour pouvoir sortir sortir de ce jugement avec des merveilleuses brachot pour toute l'année, qu'Hachem nous rentre dans le livre de la vie avec la santé, avec tout ce que nous désirons, Be'ezrat Hachem. Alors, je vous rappelle, on va faire une petite pause. Et je vous rappelle que si vous voulez nous écrire quelque chose, un mot, une réflexion, une proposition, tout ce que vous avez envie de nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante radio@torah-box.com. On essaiera de vous répondre Bezrat Hashem. On va faire une petite pause musique publicité. Je vous demande de rester avec moi parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à comprendre et c'est tellement crucial que je vous attends juste après cette pause. A tout de suite.
כל החברים מהישיבה פה, הנשואים וגם הרווקים עוד, והנגנים הם מנגנים פה, הלילה רק נשמח ולא נשען לו. כולם אל הבמה לרקוד ברחבה, ומי שעוד לא קם נעיף אותו מכאן, תזיזו את הרגליים נעשה קצת פאן. אז קדימה כמרן, 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 אז קדימה כמרן, 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 כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל קלה. זר החיה וקיימה גם בשמחה, בשמחה וצהלה. כיצר מרקים, היי, כיצר, לדאגות נשים בצר, לכתוב במעגל אחד, ממך, תו אל תו. אז בוא נשאיר בסול מי, סול מי. נשאיר בסול מי, סול מי. ננגן את התווים של הסול מי, סול מי. אז קדימה כמרן, 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 אז קדימה כמרן, כמרן, כמרן. שוב, שוב, שוב החברים מהישיבה פה, הנשואים וגם הרווקים עוד, שוב הנגנים הם מנגנים פה, הלילה רק נשמח ולא נשען, לא. כולם אל הבמה לרקוד ברחבה, ומי שעוד לא קם נעיף אותו מכאן, תזיזו את הרגליים נעשה קצת פאן. אז קדימה כמרן, 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 אז קדימה כמרן, 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 כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל קלה. זר החיה וקיימה גם בשמחה, בשמחה וצהלה. כיצר מרגים, היי, כיצר, לדאגות נשים בצר, לכתוב במעגל אחד, ממך, תו אל תו. אז בוא נשאיר בסול מי, סול מי. נשאיר בסול מי, סול מי. ננגן את התווים של הסול מי, סול מי. אז קדימה כמרן, 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 אז קדימה כמרן, כמרן, כמרן. שלום עטרת בעלה, בואי בשמחה ובצהלה. כיצר מרגים, היי, כיצר, חלי כובע נשים בצר, לכתוב במעגל אחד, ממך תו אל תו.
Wait a minute, באיזה תווים אמרת?
אז בוא נשאיר בסול מי, אול מי, אול מי, אול מי, אול מי, תבין של הסול מי, סול מי. אז קדימה כמרן, 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 אז קדימה כמרן, 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 אז קדימה כמרן, כמרן, כמרן.
Rebonjour à toutes, bienvenue donc à notre émission Judaïsme au féminin. Nous abordons une deuxième partie. J'espère que vous êtes toujours avec moi et pour celles qui viennent de nous rejoindre, alors bienvenue. Avant la pause de publicité, j'ai posé certaines questions autour de Rosh Hashanah. En vérité, des questions qui visent à nous permettre de mieux comprendre et de mieux réaliser qu'est-ce qu'Hachem attend de nous pendant ces deux journées qui sont tellement, tellement fondamentales pour toute l'année, des journées qui sont cruciales, des journées qui sont à la base de tout ce qui va nous arriver toute l'année à venir, Be'ezrat Hashem. Donc, je vous rappelle, donc avant la pause, j'avais posé la question, est-ce que Rosh Hashanah était un jour de joie ou un jour sévère? Et puis, on avait également posé la question, pourquoi est-ce que la notion de faute et la notion de tshuva n'apparaît pas du tout dans la tfila ou dans les habitudes de Rosh Hashanah? Là, maintenant, j'aimerais, donc, pour pouvoir répondre à ces deux questions, j'aimerais vous expliquer un principe fondamental, un principe qui est en vérité valable pour toutes les fêtes et qui est très important à savoir et à comprendre parce que c'est vrai que ça change notre approche aux fêtes. Et je vous dis la vérité que moi, depuis que je l'ai découvert et que je l'ai étudié pas mal d'années, je vis les fêtes totalement différemment. C'est un principe qui est ramené par le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, également par Raf Dessler. Et qui nous dit quoi? Qui nous dit que lorsqu'un juif arrive à une fête, donc une fête c'est une date, ok, lorsqu'un juif arrive à une fête, il rentre dans un espace-temps qui est un espace-temps particulier. Et en vérité, on aurait tendance à croire que lorsque par exemple nous fêtons Pessah ou nous fêtons Hanouka, nous sommes en train de fêter un événement passé. Nous avons tendance à croire que Pessah, nous fêtons la sortie d'Égypte. Nous avons tendance à croire que Hanouka, nous fêtons la victoire des Maccabim sur les Yévanim, sur les Grecs. Et en vérité, Rav Dessler, il vient nous dire ici, ce n'est pas uniquement pour se souvenir d'événements passés que nous fêtons les fêtes. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est parce qu'en réalité, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, le 15 du mois de Nissan, par exemple, parce qu'on va utiliser l'exemple de Pessah pour comprendre cette grande, grande notion qui va nous permettre également de comprendre c'est quoi Rosh Hashanah. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, le 15 Nissan, c'est inscrit dans cette journée du 15 Nissan un potentiel pour sortir d'Égypte. Maintenant, évidemment, on n'est plus en Égypte. Ça veut dire quoi pour sortir d'Égypte? Ça veut dire pour sortir d'exil. Ça veut dire pour sortir de nos exils personnels. Il y a, pendant cette journée et la semaine qui suit, un potentiel de liberté, de chéroute, comme on dit. Et donc, chaque année, lorsqu'arrive cette date du 15 Nissan, Rav Dessler explique que nous rentrons donc dans un espace-temps avec un potentiel qui est le potentiel de la première fois où cette date s'est inscrite dans l'histoire du Ham Israël, dans l'histoire du monde, dans l'histoire du peuple juif. Donc, on va tout de suite ramener ça à Rosh Hashanah. Mais déjà, il faut bien comprendre que cet espace-temps, c'est un espace-temps avec un très, très, très grand potentiel. Toutes les fêtes contiennent un très grand potentiel. Chaque fête, elle a sa particularité. Chaque fête, elle a sa manière de nous connecter à Hachem. Et à chaque fête, nous avons la possibilité donc de nous connecter à l'essence de cette fête à travers, par exemple, les mitzvot de la fête. Les mitzvot de la fête sont les moyens qu'Hachem nous a donnés pour pouvoir recevoir cette influence, parce qu'en fait, c'est ça ce qu'il nous dit le Rav Dessler, c'est que pendant les fêtes, il y a sur le monde une influence de Kdusha, une influence de sainteté, pareille, semblable à celle qui est descendue dans le monde la première fois où cette fête a été inscrite dans le calendrier juif. Donc, le 15 Nissan, par exemple, on reprend cet exemple, nous avons donc un potentiel de sortir en liberté, c'est-à-dire que ce jour-là, Dieu nous aide à nous libérer. On dit que de la même manière que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte en Nissan, nous sortirons d'exil en Nissan parce que ce sont des jours particuliers avec ce potentiel. Maintenant qu'on a compris un petit peu ce grand principe, on va essayer de le calquer sur Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui s'est passé au premier Rosh Hashanah de l'histoire du monde, de l'humanité? Alors, je vous rappelle donc que le premier Tishrei de l'histoire du monde, l'homme a été créé. Adam Harishon a été créé. Adam et Chava ont été créés. Ce jour-là également, ils ont fauté, malheureusement. Et ce jour-là également, ils ont été jugés. Donc, si on comprend bien l'idée que lorsque nous arrivons à une date clé, il y a un potentiel qui revient sur le monde, qui est lié à la première fois où cette date s'est inscrite dans l'histoire de notre judaïsme, on comprend que chaque Rosh Hashanah, il y a un potentiel de... Ça veut dire quoi? De l'homme a été créé. Ça veut dire quoi? L'homme est recréé. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est pas très clair. Ça veut dire quoi? L'homme a été créé. Alors, qu'est-ce qui se passe chaque premier Tishrei depuis cette histoire, depuis la création de Adam et Chava? En réalité, les Chachamim nous expliquent que Dieu, Akadosh Baruch Hu, est le roi du monde. Et que avant même d'avoir créé ce monde, il était roi. Après même notre existence, il sera roi. Néanmoins, à partir du moment où Dieu a créé l'humain, où Dieu a créé l'humanité, il s'est déclaré roi sur un monde avec des sujets. Et donc, chaque année, arrivé au premier Tishrei, ce jour-là, il y a un renouvellement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que, étant donné que le premier Tishrei de l'histoire du monde, Dieu a créé l'homme, et en créant l'homme, il est devenu donc roi sur l'homme, il est devenu roi sur Adam et Chava. Depuis, chaque premier Tishrei, de nouveau, nous proclamons Dieu roi sur l'univers, ce jour du premier Tishrei. Et c'est quelque chose qui revient chaque année. Chaque année, nous proclamons Akadosh Baruch Hu, roi sur le monde pendant cette journée. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit avant la pause de publicité, pour pouvoir comprendre l'essence d'un jour, il faut toujours regarder la tefila. Puisque la tefila, comme je vous l'ai dit, c'est le travail du cœur, donc c'est ce qu'Hachem attend de nous ce jour-là. Et on va voir que dans la tefila de Rosh Hashanah, il y a énormément, essentiellement dans le Moussaf, il y a énormément de psukim, de versets, qui parlent donc de Dieu en tant que roi, du renouvellement de la royauté. Je vais vous lire quelques-uns de ces versets, et juste pour que lorsque, si Dieu veut, vous prierez à Rosh Hashanah, j'espère que vous aurez la possibilité de prier à Rosh Hashanah, j'espère que vous aurez la possibilité également d'arriver au Moussaf de Rosh Hashanah, mais en tout cas, vous comprendrez un petit peu pourquoi est-ce que c'est tellement, ça apparaît tellement de manière flagrante dans la tefila, cette notion de couronnement de Dieu à Rosh Hashanah, en souvenir, entre guillemets, on a bien compris que ce n'est pas un souvenir passif, parce qu'un souvenir passif, ça ne nous amène à rien. Chez nous, un souvenir, c'est quelque chose d'actif, donc on comprend qu'on va, entre guillemets, se souvenir de quelque chose. En vérité, on va revenir dans un espace-temps bien particulier qui va nous demander un travail et qui va nous permettre donc d'exploiter cette journée de Rosh Hashanah. Mais déjà, regardez, vous verrez, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on nous dit, on nous ramène plusieurs versets qu'on appelle les versets des Malchouyot, donc dans lesquels, Malchouyot, du mot Meler, du mot roi, dans lesquels on parle donc de cet aspect de Akadosh Baruch Hu, Hachem, roi sur l'univers. Je vous les lis directement en français, ces versets, vous les verrez dans la tefila en hébreu. Un des versets est le verset suivant. « Alors tu règneras, toi qui es l'Éternel notre Dieu, vite sur toutes tes œuvres dans le monde Sion, résidence de ta gloire et dans Jérusalem, la ville de ton sanctuaire. » Comme c'est écrit, règnera l'Éternel à jamais ton Dieu de Sion pour l'éternité. C'est un premier verset que nous lisons donc dans le Moussaf. Un deuxième verset, à l'Éternel est la royauté et il gouverne les peuples. Comme il est dit, l'Éternel a régné, il est revêtu de sa majesté. Un troisième verset nous dit, ainsi dit l'Éternel, roi d'Israël et son sauveur, etc. On dit, et Dieu sera roi sur toute la terre. Je ne vais pas tous vous les lire, il y en a pas mal. Mais en vérité, on s'aperçoit donc que quoi ? Que la tefila de Rosh Hashanah tourne autour de cette notion que Dieu est roi. Et pourquoi ? Parce que c'est le jour où le couronnement, la royauté de Dieu se renouvelle, le jour où nous, ses sujets, nous le couronnons roi. D'ailleurs, vous savez qu'une des raisons pourquoi est-ce que nous sonnons le shofar à Rosh Hashanah, c'est parce que lorsque nous couronnons un roi, donc nous sonnons entre guillemets les trompettes. Il y a beaucoup de significations et de raisons pourquoi est-ce qu'on sonne le shofar, mais c'est une des raisons. Nous sommes en train donc de couronner Dieu roi sur nous. Donc, on a compris que Rosh Hashanah, c'est un jour où nous avons comme travail, comme devoir, de couronner Dieu comme roi. On ne sait pas encore ça veut dire quoi. Enfin, si vous savez déjà ça veut dire quoi, c'est bien. Mais moi, je ne vous ai pas encore expliqué ça veut dire quoi. Couronner Dieu roi, fêter Dieu roi, lui sonner des trompettes. C'est quelque chose qui nous paraît assez élevé. Qu'est-ce qu'on attend de nous exactement? Et vous allez voir que c'est très, très, comme on dit en hébreu, tahleh, c'est pratique. Hachem, il ne demande pas de vivre dans des sphères supérieures et de s'imaginer des choses qui n'existent pas. Il y a aussi un travail. Comme je vous l'ai dit, cette émission parle aux femmes. Il y a un travail qui est... vous savez, les femmes, on est beaucoup, beaucoup occupées avec tout ce qui est le matériel. OK, servir, desservir, cuisiner, s'occuper d'enfants, débarrasser, faire la vaisselle, etc. Et on va voir combien est-ce que dans ces actes du quotidien, le jour de Rosh Hashanah, on est capable, et pas simplement on est capable, on doit couronner roi. Bien, Akadosh Baruch Hu Hashem, bien sûr, on doit le couronner dans la tefila, mais on doit également le couronner dans notre pensée, dans notre manière d'appréhender cette journée, dans les pensées que nous avons autour donc de cette journée de Rosh Hashanah. On va expliquer tout ça, mais je voulais déjà que vous compreniez bien ce grand principe. Donc lorsque nous rentrons dans cet espace-temps premier et deux, Aleph et Beth du mois de Tishré, nous rentrons dans un espace-temps où notre devoir est de couronner Dieu comme roi. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où Dieu a créé l'homme. Et puisqu'il a créé l'homme, il est devenu roi sur l'homme et ça se renouvelle chaque année. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu uniquement la création de Adam et Chava ce jour du premier Tishré, mais il y a eu également le jugement. Dieu, ce jour-là, a jugé Adam et Chava pour leur faute d'avoir mangé du fruit interdit. Et donc, chaque année, arrivée cette journée, pourquoi est-ce que je vous dis cette journée alors qu'il s'agit de deux journées, du premier et du deuxième jour du mois de Tishré? Parce que les sages les appellent une grande journée. Ils appellent ça une grande journée, bien qu'il s'agisse de deux jours, elle est considérée comme une grande journée. Pendant ces deux journées, qui sont en vérité une grande journée, Dieu va nous juger. Pourquoi ? Parce que, au premier, vous l'avez compris, parce que le premier mois du mois de Tishré, de la création du monde, Dieu a jugé Adam et Chava. Chaque année, lorsque nous rentrons dans cet espace-temps, Dieu va nous juger. Et ce n'est pas un hasard si Dieu va nous juger justement le jour où nous proclamons sa royauté. Il n'y a pas d'hasard. C'est pas, hop, par hasard, ce jour-là, on proclame Dieu roi, et hop, par hasard, ce jour-là, on est jugé parce que Hachem a jugé Adam et Chava. Tout est lié, tout est imbriqué. Toutes ces notions, elles sont imbriquées. Pourquoi ? Pour nous apprendre à vivre, pour nous apprendre à exploiter ces journées, pour nous apprendre à nous préparer, et surtout, à tout faire pour pouvoir, comme on dit, l'iskot badin, pour pouvoir sortir vainqueur de ce jugement qu'on a. Parce qu'on n'a pas oublié que c'est un jour où on est jugé. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire le maximum pour que dans la balance, vous savez, dans les enfants, souvent, lorsqu'ils reviennent du Gan à la période de Rosh Hashanah, ils amènent une balance. Et dans cette balance, on s'imagine que donc Hachem, il va peser nos fautes par rapport à nos bonnes actions. Et donc, Bezrat Hachem, on va tout faire pour que le poids de nos bonnes actions soit tellement lourd qu'il n'y a plus aucun poids à nos mauvaises actions. Et que Bezrat Hachem, il va déclarer que cette année, il va proclamer le Mashiach roi sur nous pour déjà, Bezrat Hachem, vivre cette année qui nous attend dans tout le dévoilement de Dieu sur terre. Parce que c'est ça le sens du monde. Le sens du monde, c'est d'amener à ce que le Mashiach nous permette de comprendre et de voir que Dieu est le roi, et de comprendre et de voir et de nous amener à servir Dieu de la meilleure manière. Donc c'est ça ce qu'on veut, c'est ça ce qu'on attend. On veut que, non seulement on veut qu'Hachem il nous inscrive dans le livre de la vie, non seulement on veut qu'Hachem il nous inscrive dans le livre de la Parnassa, de la santé, des enfants, de tout ce qu'on désire, mais on veut surtout et particulièrement que Dieu nous inscrive dans le livre de la Geoula, que nous soyons libérés cette année déjà, Bezrat Hachem. Et pour ça, on a un boulot à faire, on a un travail à faire, et on a compris que ce travail va tourner autour du couronnement de Dieu. Je vous propose une petite pause de publicité, et on se rejoint tout de suite après pour comprendre ça veut dire quoi couronner Dieu. Parce que c'est ça tout le truc, c'est ça toute l'essence de cette journée, et c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'on fait alors avec cette donnée qui est une donnée fondamentale. Il faut bien comprendre que c'est une donnée qui va changer toute notre journée. C'est une donnée qui va donner le sens à cette fête de Rosh Hashanah et qui va nous permettre donc de la vivre dans toute sa splendeur, Bezrat Hashem. Donc juste une petite pause et on reprend tout de suite après. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire quelque chose, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante radio@torah-box.com. A tout de suite.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Organiser un cours avec un rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands. sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fêtes juives, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site ToraBox à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions ToraBox délivrent sur mesure pour vous. ToraBox, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.
Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Rebonjour à toutes, donc je suis contente de vous retrouver après cette pause. Donc notre émission judaïsme au féminin, nous avons déjà bien entamé notre analyse de ce que c'est Rosh Hashanah, ce qu'Hachem il attend de nous, mais en vérité on est en plein suspense parce qu'on n'a pas du tout compris, mais... qu'est-ce que ça veut dire pour nous les femmes et qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est bien beau toutes ces idées, c'est bien beau toutes ces notions, mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait avec ? Alors, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on fait en pratique, il y a encore des petites choses qu'il faut comprendre pour pouvoir arriver donc à l'application de ces très très belles et très très grandes notions. Alors, pour comprendre, je vous ai dit avant la pause qu'il y a un lien entre le fait que Rosh Hashanah soit le jour du couronnement de Dieu et entre le fait que Rosh Hashanah soit également le jour du jugement. Ce ne sont pas deux, c'est pas par hasard, ce n'est pas deux notions qui par hasard tombent le même jour. Non, ce n'est pas comme ça, il n'y a pas d'hasard chez nous. Et si Rosh Hashanah est tant le jour où on couronne Dieu comme roi, et tant le jour où nous sommes jugés, c'est parce que les deux sont liés. Et le Rav Friedlander, donc l'élève du Rav Dessler, nous explique que pour comprendre le lien entre ces deux notions, nous pouvons utiliser... le personnage de Paro, et oui, de Paro, de ce rachat de Paro, mais nous pouvons utiliser l'histoire donc, de ce personnage, pas pour apprendre de lui, Chas v'Shalom, mais pour comprendre comment fonctionne la notion de royauté. Et Laura Friedlander nous explique que nous voyons dans l'histoire que le jour où Paro a fêté son anniversaire, ce jour-là, il a décidé de juger tous ses sujets. Et c'est le jour, donc, un jour de grand jugement, le jour de son anniversaire. Et pourquoi ça ? Quel était le rapport entre le fait que Paro fête son anniversaire et le fait que ce jour-là, il va juger ses sujets ? D'ailleurs, une petite parenthèse pour celles qui ont oublié. On voit donc que lorsque le Sar Hamashkim et le Sar Haofim, le maître échanson et le maître panetier, ont fait des rêves et que Yosef était avec eux en prison et qu'il a interprété leurs rêves. En vérité, on voit donc que Paro va décréter, va rejuger leur cas, revoir leur cas, justement le jour de son anniversaire. Un des deux va donc finir par mourir et l'autre va être remis de ses fonctions. Et là, ce que le Rav Friedlander vient nous dire, c'est que pourquoi est-ce que Dafka, le jour de son anniversaire, Paro décide donc de revoir ce qui se passe dans son royaume, en Égypte. Et en vérité, il explique que que Paro se prenait pour un dieu. Et Paro donc considérait qu'il était le dieu de l'Égypte. Et le dieu de l'Égypte, le jour de son anniversaire, c'est logique que c'est un jour où il revoit tout ce qui se passe dans son royaume, qui vérifie qui doit être remis de ses fonctions, qui c'est qui doit être démis de ses fonctions, qui c'est qui doit recevoir peut-être une augmentation, un poste plus élevé. C'est le jour où en vérité il revoit un petit peu tout ce qui se passe autour de lui pour entamer une nouvelle année où son royaume fonctionnera encore mieux que l'année précédemment. Et Laura Friedlander nous dit ce que nous apprenons de Paro, c'est que c'est tout à fait logique que le jour où un roi est couronné, c'est un jour où il revoit son, ses sujets, où il revoit où en est donc son royaume, son peuple. Et un jour où donc il vérifie ce que chacun a besoin de recevoir, peut-être une plus grande paye, peut-être de le démettre de ses fonctions, de redonner en vérité à chacun, ou de en vérité de vérifier comment est-ce qu'il pourrait améliorer le fonctionnement donc de son makom de roi, pour que donc l'année à venir soit une année plus réussie. Donc en vérité, on comprend ici que le Rav Frenaner nous apprend que l'Avdil, bien sûr, ce qu'on apprend de Paro, c'est pas par rapport au personnage, mais c'est par rapport pour nous aider à comprendre ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Et nous explique que le jour de Rosh Hashanah, donc c'est le jour où Hachem, il va pas simplement regarder en arrière ce que nous avons fait l'année précédente, mais en vérité, il va utiliser donc le fait de nous juger sur l'année précédente pour voir qu'est-ce qui pourrait nous donner à la nouvelle année. Qu'est-ce qui doit nous donner? Qu'est-ce qui doit continuer à nous donner? Qu'est-ce qui doit nous donner en plus? Combien est-ce que de bracha en plus nous allons avoir dans notre vie? Combien est-ce que de smachot, de joie en plus nous allons avoir dans notre vie? On parle que de choses positives. Combien est-ce que Hachem va décider ce jour-là de combien est-ce que nous avons exploité le potentiel qu'il nous a donné l'année précédente? Et combien est-ce que il va décider de nous redonner tout ce qu'il faut, tous les outils. Ça veut dire quoi, les outils? Ça veut dire la santé, ça veut dire la joie, ça veut dire les enfants, ça veut dire le mari, ça veut dire la parnassa. Tout ça, ce sont des outils que Dieu va nous donner pour pouvoir nous permettre de dévoiler sa royauté dans ce monde, pour pouvoir nous aider à nous permettre à dévoiler Hachem dans ce monde grâce à tous les outils qu'il va nous donner et qu'il va décréter pour nous à Rosh Hashanah. Donc, je vous réexplique, je vous résume un petit peu ce que je viens de dire. Ça paraît peut-être très très élevé, mais en vérité, c'est extraordinairement beau et c'est extrêmement également important de comprendre ça. À Rosh Hashanah, Hachem, il nous regarde. Et il regarde combien est-ce qu'on a essayé de faire d'efforts l'année passée, combien est-ce qu'on a regretté ce qu'on n'a pas fait comme il fallait, surtout combien est-ce qu'on a de bonne volonté, parce que c'est ce qui est plus important aux yeux d'Hachem, c'est notre bonne volonté. Combien est-ce qu'on veut être des bonnes mères, combien est-ce qu'on veut être des bonnes épouses, combien est-ce qu'on veut être des bonnes filles, combien est-ce qu'on veut être honnête au travail, etc. Hachem, il regarde tout ça, et en fonction de ça, alors, il va nous donner pour la nouvelle année encore plus de bracha, si Dieu veut, je parle en positif, uniquement en positif, pour l'année à venir. Pourquoi? Parce que ce jour-là où nous le couronnons roi, il nous juge pour pouvoir que l'année à venir soit une année encore plus réussie, une année où il va encore plus se dévoiler dans nos vies et dans le monde Bichlal. Et on sait que chaque juif, il a sa part dans le dévoilement d'Hachem. C'est pas uniquement les tzadikim et les rabbanim qui ont leur part. Chaque juif doit se dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Chaque juif, il a sa part. Et chaque juif, il a un travail à faire. Et donc à Rosh Hashanah, le jour du jugement, Dieu va juger combien est-ce qu'il va nous donner d'outils, de potentiel pour pouvoir le dévoiler l'année à venir. Et donc, on comprend maintenant le rapport entre le fait que à Rosh Hashanah, nous couronnons Dieu, et entre le fait que c'est le jour du jugement. Les deux sont liés. Le jour du couronnement, Dieu nous juge pour pouvoir nous donner, nous redistribuer en fait le rôle qu'il veut nous donner pour la nouvelle année. Hachem redistribue les rôles à Rosh Hashanah. Et ce que nous espérons, et ce que nous demandons à Kadosh Baruch Hu, c'est que cette année, nous réussissons à réaliser le rôle qu'il attend de nous, un rôle qui est certainement crucial dans l'histoire de la Géoula, puisque on sent combien est-ce que la Géoula est proche, et que chacun de nous a son travail, ne pas croire que c'est donc des choses qui sont au-dessus de nous et qui nous concernent pas. Et là, j'arrive maintenant au point le plus important, je pense, de cette émission. Après qu'on a compris toutes ces notions, que le premier Tishrei, nous revenons donc à un jour avec une naissance, avec un potentiel, après que nous comprenons que notre travail est de couronner Hachem et que ce jour-là, nous sommes jugés en vue de la nouvelle année, maintenant, je vous pose la question. Comment est-ce qu'on couronne Hachem? Comment est-ce qu'on couronne Hachem? Alors, couronner Hachem, c'est comprendre qu'il n'y a que lui, qu'il n'y a que lui au monde, et qu'il est mon roi, qu'il est notre roi, et que la seule chose qui doit être primordiale pour moi, c'est faire sa volonté. Et qu'à chaque fois que je me laisse prendre au piège du Yetzer Hara et que je ne fais pas sa volonté, et que je fais passer ma volonté avant la sienne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train, quelque part, d'oublier qu'il est roi. Vous savez, je vous ai posé la question au début, est-ce que Rosh Hashanah, c'est un jour de tshuva, de vidouille, c'est un jour où on doit avouer ses fautes? A priori, non. A priori, oui, puisqu'a priori, c'est un jour où on ne mentionne pas du tout la notion de faute, mais en parallèle, ce sont les deux premiers jours de Aseret Yemei Teshuva. Et le Rav Neven Sal, il nous dit que lorsqu'une personne, elle comprend c'est quoi couronner Hachem, et qu'elle comprend que couronner Hachem, c'est réaliser qu'on ne peut rien faire qui ne soit pas sa volonté. Parce qu'il est tout pour nous. Il est notre roi, et notre milvado, comme disait Rabbi Chaim de Volodine. Il n'y a rien à part lui. Et lorsqu'une personne réalise ça, alors, selon le Rav Neven Sal, elle est en train de briser les fondements de l'immeuble de ses fautes. Parce que ce qui est à la source de nos fautes, c'est qu'on n'a pas réalisé qu'on ne peut pas vouloir quelque chose qu'Hachem ne veut pas. On ne peut pas s'habiller tel qu'on veut nous et croire qu'il y a ce que Dieu veut et ce que je veux moi. On ne peut pas aussi dire, bon, Dieu, il veut que je parle comme ça, que je ne dise pas de lashon hara, que je ne dise pas de choses méchantes. Et moi, j'ai envie de dire ça. Non, si on réalise que Dieu, il est roi, et si on le couronne roi, ça veut dire que je m'annule totalement face à lui. Je m'annule totalement, j'annule totalement ma volonté par rapport à sa volonté, par rapport à ce qu'il veut de moi. C'est ça, couronner Hachem. Couronner Hachem et faire tshuva à la base, c'est réaliser qu'il ne peut pas avoir autre chose que ce que Dieu me demande. Et que si le Yetzer Hara veut me convaincre qu'il y a quelque chose d'autre, réaliser que non, ce qu'Hachem me demande, il n'y a pas autre chose. Je ne peux pas envisager qu'Hachem y met sur mon chemin ou mes hésitations. Non, il n'y a pas. Je m'annule totalement face à Hachem. Maintenant, je vais vous expliquer que dans la journée de Rosh Hashanah, on a plusieurs occasions de couronner Hachem. Alors bien sûr, dans la tefila, à travers les mots de la tefila, mais pas uniquement. Je vous ai dit que les femmes, on est beaucoup, beaucoup occupées avec tout ce qui est le côté technique, presque, on va dire. Et bien, dans le côté technique, c'est là-bas qu'on va couronner Hachem. Si, par exemple, c'est là-bas qu'on doit couronner Hachem, je ne vais pas dire qu'on va, parce que Bezrat Hachem, je ne vais pas vous assurer qu'on va tout y arriver, mais en tout cas qu'on doit. Ça veut dire quoi qu'on doit? Si, par exemple, les choses, elles ne sortent pas comme on veut. Un enfant, il a fait tomber une bouteille de jus de raisin par terre le premier soir de Rosh Hashanah. On essaie de nettoyer, ça reste collant. Là-bas, je couronne Hachem. Ça veut dire quoi, je couronne Hachem là-bas? Je dis, Gamzou Letova, ça c'est pour le bien. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'enfant, il aurait dû faire attention, etc. On ne dit pas le contraire. On ne dit pas qu'on ne doit pas les élever, les enfants, à être prudents, etc. Non, on n'a pas dit ça. Mais on sait que si la chose a eu lieu, c'est que Dieu l'a voulu comme ça. Et couronner Hachem, c'est donc réaliser qu'il n'y a que ce que Dieu veut, que je ne dois faire que ce que Dieu veut et que je ne dois réagir à tout ce qui m'arrive qu'en prenant conscience que c'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi? Parce que Dieu est roi. C'est ça, couronner Hachem. Couronner Hachem, c'est savoir que si quelqu'un me fait quelque chose ou si quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas, alors je me tais. Pourquoi je me tais? Parce que je réalise que Dieu, il est roi, que Dieu, c'est lui qui décide et que si cette personne m'a dit une phrase qui m'a pas plu, qui m'a blessé ou qui m'a offensé, okay, c'est que Dieu avait décidé que je devais passer par cette offense et que la personne qui est en face de moi, elle n'est qu'un chaliar, elle n'est qu'un envoyé de Dieu. C'est infini combien est-ce qu'on peut couronner Dieu roi pendant ces deux journées. Tout au long de la journée, on a très très envie de prier par exemple. Et c'est pas possible. Imaginez-vous une femme qui s'est levée tôt, qui a essayé donc de se concentrer dans sa tefila, dans sa prière. Elle a voulu ce jour de Rosh Hashanah sentir la connexion avec Dieu, sentir la spiritualité, prier pour tout ce qu'elle a besoin pour la nouvelle année. Et elle arrive donc au moment de la Amida, par exemple, du Shmona Esrei, et puis son enfant vient à côté d'elle avec la couche pleine. Vous savez qu'on n'a pas le droit de prier à côté de quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui est donc sale. Ça veut dire quoi? Cet enfant, il vient en plein milieu, elle avait tellement, tellement envie de faire une bonne fila, elle avait tellement, tellement envie de sentir combien est-ce qu'elle se connecte, elle apporte et elle prie à Kadosh Baruch Hu ce jour de Rosh Hashanah, et là, elle doit tout arrêter pour aller changer la couche de son enfant. Ça veut dire quoi, ça? Si à ce moment-là, elle dit une phrase du genre « Hachem, Je te couronne en changeant la couche de mon enfant. Ça veut dire quoi? Je te couronne, ça veut dire je comprends que c'est toi le roi. Et moi, j'avais envie maintenant de prier. Mais toi, tu as décidé autrement. Tu as décidé que j'allais arrêter de prier pour changer la couche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le choix. Je ne peux pas prier devant quelque chose de sale. Et d'un autre côté, l'enfant, il est à côté de moi. Je ne peux pas non plus m'en débarrasser. Donc, ça veut dire quoi? Je m'annule par rapport à la volonté d'Hachem. Et c'est ça le travail que Dieu nous demande à Rosh Hashanah. Et vous savez ce que les sages nous dévoilent? Que lorsqu'une personne fait ce travail, que lorsqu'une personne, elle arrive à la conviction totale que c'est Dieu qui commande sa vie, qu'il n'y a que la volonté de Dieu qui doit primer pour elle, elle doit chercher à faire sa volonté envers et contre tout, faire taire le Yetzer Hara qui la perturbe, comprendre que lorsque je suis tentée de faire des choses qu'il ne faut pas faire, de dire des phrases qu'il ne faut pas faire, de m'habiller comme il ne faudrait pas, annuler toutes ces retsonot, comme on dit en hébreu, toutes ces choses en vérité qui ne sont pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour servir le roi des rois, pour réaliser qu'il n'y a que lui, qu'il n'y a que lui dans ma vie, qu'il n'y a que lui qui dirige ma vie, qu'il n'y a que lui qui commande ce monde, c'est lui qui va m'apporter la parnassa, c'est lui qui décide par quelle épreuve je dois passer, c'est lui qui décide c'est lui qui décide si je dois endurer une épreuve, phrase de Shalom, ou pas. Lorsque je réalise qu'il n'y a que lui, et que je couronne Dieu à travers le fait que je dise les mots « Gamzoulé Tova », même ça c'est pour le bien, ou bien des mots du genre « Hachem, c'est toi le roi, c'est pas moi, c'est toi le roi ». Et bien là, on est en train de réaliser le sens et l'essence même de cette journée de Rosh Hashanah, et à savoir que les Chachamim nous disent que ce travail amène à la joie. L'annulation face à Hachem amène à la joie. Je vous ai demandé au début, est-ce que Rosh Hashanah, c'est un jour de joie? Et on a vu qu'il n'y a pas une mitzvah officielle de se réjouir à Rosh Hashanah, mais que la joie, c'est le résultat du travail que nous allons accomplir à Rosh Hashanah. Lorsque nous prenons conscience que le roi du monde, c'est notre Père, et qu'il nous aime, et qu'on se renforce en émouna, que tout ce qu'il fait, et que tout ce qu'il met sur notre chemin, et tout ce qu'il nous demande également, toutes les mitzvot qu'il nous demande, elles sont bonnes pour nous. Elles sont dans notre intérêt. On lui fait confiance et on décide de oui le servir et de oui faire tout ce qu'il nous demande et qu'on s'annule totalement face à sa volonté. On est en train de le couronner roi. Et ça, c'est du 24 heures sur 24. Lorsqu'un enfant nous réveille la nuit ou lorsque même, sans accuser un enfant, même parce que nous-mêmes, on n'arrive pas forcément à se concentrer dans la tefila ou le plat qu'on a tellement mijoté pendant des heures est sorti pas comme on voudrait, etc. Dans tout ça, se rappeler, eh oh, c'est pas moi qui commande le monde. C'est pas moi qui gère le monde. Comme on dit, les Rachamim nous disent qu'il y a une tendance à croire que je suis le roi, je fais ce que je veux, j'ai envie, je décide. Et non, vous savez quoi? Combien est-ce que ce corona nous apprend qu'on n'est pas les rois? Combien est-ce qu'il nous apprend qu'il y a un roi et qu'on ne peut rien prévoir? Et que des histoires de confinement qui nous prennent comme ça par surprise, ou des histoires de, malheureusement, de gens qui sont tombés malades alors qu'ils étaient en pleine santé. On se rend compte et on réalise combien est-ce que c'est lui le roi? Et plus on comprend que, attention, c'est lui le roi, mais ce n'est pas un roi méchant, le roi c'est mon père. Lorsqu'on réalise ça, que le roi c'est notre père et qu'il nous aime, d'ailleurs c'était la faute, on va pas rentrer dans ce sujet maintenant, mais c'était une des explications de la faute de Adam et Chava, que lorsqu'ils ont écouté le serpent et qu'ils ont été convaincus par le serpent, ils ont en vérité manqué de confiance dans le fait que le serpent leur a proposé quelque chose d'autre que Dieu leur proposait. Dieu leur a dit vous ne mangez pas, le serpent il a dit mangez, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Apparemment ce que le serpent il me propose c'est mieux que ce que Dieu me propose. C'est couronner Dieu, c'est comprendre que ce que le serpent nous propose, le serpent c'est Yetzer Hara, alors je dois m'en débarrasser. Pourquoi? Parce que c'est forcément pas ce qu'il y a de meilleur pour moi. Ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est ce que Dieu me propose. Et comment est-ce que je vais y arriver? En demandant, avec la prière, en demandant à Hachem de m'aider à le couronner roi tout le temps, un maximum, toute la journée si possible. Alors c'est vrai que c'est grand, mais on a la tefila pour ça. On demande à Hachem dès maintenant. Chaque jour jusqu'à Rosh Hashanah, on demande « Hachem, aide-nous pendant Rosh Hashanah à te couronner roi à notre niveau, dans les petites choses du quotidien d'une maman, dans les petites choses du quotidien d'une femme. Hachem, aide-moi à te couronner. Et si c'est difficile, aide-moi encore plus parce que sans toi, je ne vais pas y arriver. » Donc voilà, on a dit beaucoup, beaucoup de choses, des choses très, très importantes à comprendre. Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Rosh Hashanah, c'est un jour de couronnement d'Akadosh Baruch Hu. Rosh Hashanah, c'est un jour où on rentre dans un espace-temps où notre devoir est de couronner Dieu dans avec toutes les parcelles de notre corps, avec toutes les pores de notre peau, avec toute notre personne, de le couronner roi à travers, bien sûr, les mots de la Tfila, mais également à travers notre comportement, à travers nos pensées. On sait combien est-ce que c'est important à Rosh Hashanah d'avoir des pensées positives et de savoir que tout ce que Dieu nous envoie ce jour-là, c'est pour nous permettre de l'iskot badin, de mériter, donc de sortir vainqueur au jugement. J'espère que vous êtes renforcés, j'espère qu'on a ensemble compris un petit peu, parce qu'évidemment la Torah c'est infini, un petit peu de l'essence de cette journée de Rosh Hashanah, et que si Dieu veut, on la passera avec plein de pensées positives, avec plein de ce qu'on appelle Amlachat Hashem, le couronnement de Dieu, dans les moindres détails de notre journée. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette émission de judaïsme au féminin. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire quelque chose, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante, radio@torah-box.com. J'étais très contente de passer ce moment avec vous et je vous souhaite un merveilleux Rosh Hashanah.
השתפך שמו נתן לי אחלה יום לא מתלונן על דבר כל מה שבא בא בא אני עובר ברוך הבא אז תמיד בא לי מה שבא כל מה שבא בא בא אני שר לי לה 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 זה יהיה הלכת הבא מה מה שבא זה מה בא מה שבא כל מה שבא Come on.